Chapitre 64. Depuis 15 siècles, Outrost n'avait plus vu la mer. En cette lointaine époque, une de ses campagnes l'avait conduit jusqu'à la côte et il se souvenait encore de sa réaction devant les vagues qui venaient mourir contre la coque des voiliers et des bateaux de pêche. Un désir fou de conquérir tout ça. À présent, revenu du néant, son armée marchait le long d'un fleuve qui descendait vers l'océan. En approchant de Renda-sur-Bey, il capta une odeur iodée qui fit battre son cœur un peu plus fort. Morts de faim, en dépit du sortilège qui leur faisait croire le contraire, les soldats avançaient sans demander de pause. Au vol, ou presque, ils attrapaient des poissons, des poules d'eau ou ramassaient des algues. Tout ce qui leur tombait sous les dents était bon à prendre. En tout cas, ils ne ralentissaient pas. Outros, Enoch et Rouva chevauchaient en tête lorsqu'apparurent les premières maisons de Renda-sur-Bey. En comparaison, les hameaux et les camps de mineurs qu'ils avaient croisés sur leur chemin, et méthodiquement dévastés, n'étaient que des amuse-gueules. Ici, ils trouveraient des vivres et des équipements.
« Ce soir, nous mangerons bien !»
dit Enoch, perché sur son cheval noir. Outros envisageait de faire de Renda-sur-Bey sa nouvelle base, où la flotte Norukai et son armée pourraient se rejoindre. Depuis Ildakar, les deux forces n'avaient plus communiqué et leurs plans de guerre restaient des plus rudimentaires. En chemin, Outros avait passé en revue plusieurs stratégies possibles. Fallait-il utiliser son armée comme un bélier géant pour qu'elle écrase tout sur son passage, ou former une dizaine d'unités qui rayonneraient dans toutes les directions? Après la conquête de Renda-sur-Bey, le général entendait prendre sa décision. Quand les Norukai se seraient enfin joints aux soldats, leur seule vue terroriserait l'ennemi. Histoire de ménager ses hommes, Outros laisserait aux pillards le soin d'écraser les poches de résistance. L'objectif d'une alliance, c'était toujours d'en tirer avantage.
« Calvaire sera-t-il déjà à Renda-sur-Bey ? » demanda Rouva.
« Avec son avorton de chaman ?»«
Nous verrons bien. Si nous n'avons pas besoin des Norukai, ils peuvent nous être très utiles. »
Outros talonna sa monture. Dans les rangs, des murmures excités couraient déjà. L'objectif approchait et il serait truffé de vivres et de butin. L'armée passa devant des champs déserts, des fermes abandonnées et des enclos vides.
« Ces gens ont fui ?» marmonna Outros. « Mais où sont les animaux ?»«
Ils ont dû les emmener, général, » répondit Enoch.
« Ça n'a rien de surprenant, qui oserait se dresser contre nous ?»
Des soldats allèrent piller les fermes. Ils en revinrent avec des couvertures et des ustensiles de cuisine, mais annoncèrent que tous les gardes-mangers étaient vides. Des éclaireurs explorèrent les premiers bâtiments et firent des rapports identiques. En l'absence de nourriture, les soldats devinrent de plus en plus nerveux.
« Dois-je envoyer une avant-garde, voir ce qu'il en est ?» demanda Enoch.
Agacé, Outros secoua la tête.
« Non, nous irons tous !»
L'air scintilla soudain, et l'esprit d'Ava apparut.
« Général chéri, Renda-sur-Bey a été évacué. Il ne reste presque personne. »
Ava approcha de sa jumelle. Aussitôt, son aura verte devint plus brillante.
« C'est un désert à présent. »
Comme à l'accoutumée, les jumelles parlèrent en même temps.
« Ce maudit Nathan et ses sbires ont dû nous devancer et les prévenir. Nous aurions dû tuer ce chien et ses compagnons à surplomb du monde, » dit la seule Ava. « Ça aurait calmé l'impatience du gardien le temps qu'on en finisse avec cette guerre. »
« Tuer ces gens ou non est secondaire, » dit Outros. « Même si Renda-sur-Bey est vide, nous en ferons notre base arrière. Je dois préparer la suite de cette campagne avec ou sans les Norukai. »
Le général lança sa monture au galop. Comme s'il s'engageait dans une charge, Rouva et Enoch le suivirent. Derrière eux, les premiers rangs de fantassins se mirent au pas de course. À l'entrée du village, Outros remarqua des écuries, une maréchalerie, une scierie et une tonnellerie devant laquelle s'entassaient des barriques à divers stades de leur finition. Sur la grande place où se dressait la mairie, il n'y avait pas un chat.
« Fouillez tout !»
ordonna Outros.
« Il y a des entrepôts et des silos. Dans les enclos, il doit rester des bêtes. Videz tous les gardes-mangers. Les sergents d'intendance diviseront le butin pour que chaque homme ait une ration. »
Des cris montèrent des rangs. S'éparpillant, des soldats envahirent les rues, défoncèrent les portes et investirent tous les bâtiments. Les uns après les autres, ils revinrent les mains vides.
« Il n'y a rien, général !»
annonça un officier des éclaireurs.
Les étables, les silos, les entrepôts, tout est vide. Nous n'avons même pas trouvé de foin pour les chevaux.
Outros rectifia la position de son casque à cornes et regarda droit devant lui.
J'aurais donc conquis un village fantôme ?
Il talonna sa monture.
Non, il doit y avoir quelque chose.
Enoch désigna les ruelles qui conduisaient au quai.
Regarde par ici, général. Dans le port, il n'y a plus un bateau.
Le gantelet d'Outros grinça quand il ferma un point. Au large, il aperçut trois voiliers qui s'éloignaient. Comme une meute de loups, des galères les poursuivaient. Rouva leva les mains et dessina dans l'air des arabesques magiques.
« J'aurais préféré que nous tuions cette vermine, » dit-elle. « Mais si les Norokai s'en chargent à notre place... »
« Ces fugitifs n'ont aucun intérêt, » fit Outros. « Qu'ils crèvent ou non, je m'en fiche. Mais nous devons savoir ce qu'il reste ici. Les hommes ont faim. »
Sur les pavés, les sabots des chevaux firent un boucan d'enfer. Autour du général, les guerriers dévastèrent tout, ne laissant pas une seule porte sur ses gonds. Malgré leurs efforts, ils ne trouvèrent ni retardataire ni vivres. Le spectre d'Ava dériva vers Outros.
« Il n'y a rien. Enfin rien d'utile. Je sens une menace. Sois prudent, général chéri. »
Sur sa jument, Rouva frissonna.
« Je capte les lignes d'une magie mortelle. Nous ne sommes pas seulement dans un village désert. Nathan et les autres détenteurs du don ont laissé quelque chose pour nous. »
Du bout d'un index, la magicienne dessina des formes géométriques dans l'air. Face à elle, Ava l'imita et un quadrillage brillant apparut peu à peu.
« C'est un piège! Ces bâtiments ne sont pas vides! Ils attendent de... »
En entrant dans un grand entrepôt non loin de la mairie, des soldats venaient d'activer une toile d'ignition. Des flammes jaillirent des cloisons et les fenêtres explosèrent, libérant un torrent de chaleur. Alors que le toit s'embrasait aussi, des hommes tentèrent d'étouffer les flamèches qui crépitaient sur leurs cuirasses. En une fraction de seconde, l'enfer se déchaîna. De l'autre côté de la place, un deuxième bâtiment s'embrasa, puis un troisième, qui ne tarda pas à exploser, envoyant des éclats de bois dans toutes les directions. Rouva leva les deux mains.
« Je sens la magie à l'œuvre partout !»
lança-t-elle affolée. Baissant les yeux, elle vit les lignes qu'un sorcier avait peintes sur les pavés.
« Nous sommes au centre d'une toile de dévastation !»
Ce fut au tour de la mairie d'exploser. Sa façade soufflait en un éclair. Terrifié, les talons noirs d'Outros hennit, puis il se cabra, son cavalier accroché aux rênes. Les sortilèges s'activant les uns les autres, une réaction en chaîne délibérée, le site entier devint un piège mortel. Le spectre d'Ava précéda Outros, le guidant vers le salut. D'autres chevaux fonçaient vers le port et les soldats s'éparpillaient en beuglant de terreur et de rage. En fuyant, ils déclenchaient d'autres pièges, augmentant la puissance du cyclone de magie. Les pavés commencèrent à se fissurer. Des lignes de pouvoir, comme une toile d'araignée, reliaient tous les bâtiments. En quelques secondes, Renda-sur-Bay devint une fournaise.
« Suivez-moi !»
rugit Outros. Alors que les flammes carbonisaient des centaines d'hommes, Rouva invoqua une averse qui doucha une partie des incendies sur le chemin d'Outros. Relativement en sécurité, le général et les premiers rangs continuèrent leur course folle contre la mort. Derrière, piégés par les flammes, des milliers de braves brûlaient vifs. Dès qu'il fut sur les quais, Outros jeta un dernier coup d'œil à cet enfer, puis il se tourna vers la mer. Au large, une partie des galères gagnait du terrain sur les voiliers trop chargés pour avancer vite. Commandés par les capitaines Stracker et Donnell, deux voiliers pleins de soldats et de réfugiés essayaient de garder leur maigre avant sur les galères. Alors que les derniers détenteurs du don montaient à bord du navire amiral, le capitaine Mills continuait à sonner l'alarme. Quand le navire s'ébranla, Nathan vint se placer à la poupe. Voyant que leur foyer était en feu dans le lointain, les fugitifs se taisaient des larmes aux yeux. Nathan eut un sourire amer.
« On dirait que le général a trouvé notre petite surprise. »« Il n'a encore rien vu !»
grogna Auron. Peu après, d'autres colonnes de flammes jaillirent, les pièges déclenchés par les envahisseurs. Sous un ciel noir de fumée, Renda-sur-Bay se transforma en un brasier géant, le genre que rien n'éteignait sinon la disparition de tout ce qui pouvait brûler. Thaddeus et d'autres réfugiés pleuraient à présent à chaudes larmes. Compatissant, Rendel posa une main sur l'épaule du bourgmestre. Dame Olga, elle, s'intéressait aux galères à l'approche.
« Que va-t-on faire contre les Norukai? Ils sont rapides !»
Arpentant le pont, le capitaine Mills criait des ordres à ses hommes. Marins expérimentés, ceux-ci jouèrent de toutes les subtilités des voiles pour faire prendre de la vitesse au navire. Plusieurs détenteurs du don les aidèrent en orientant le vent dans la bonne direction. Norcross se tenait près de Zimmer qui regardait alternativement Renda sur Enfer et les galères ennemies.
Après tant de batailles contre Outros, affronter les Norokai nous changera un peu.
Alors que les tours de garde devenaient de plus en plus petites, le cœur de Nathan bondit dans sa poitrine. Ce maudit Ivan le laisserait-il un jour en paix? Pour oublier ses tourments, le vieil homme s'intéressa lui aussi aux galères. Vent dans le dos, des guerriers maniant les rames, ses navires avançaient très vite. La poursuite se structurant, 10 galères collaient au basque des voiliers tandis que le reste de l'armada fondait sur le village en feu. Rouge de colère, Bannon, campé près du sorcier, regardait approcher les galères à la figure de proue en forme de tête de serpent.
« On dirait que je vais encore pouvoir étriper des Norukai !»
dit le jeune escrimeur. Il tapota le pommeau de son épée, une lame réglementaire que le général Zimmer lui avait donnée.
« Une épée, c'est déjà pas mal, mais Soline me manque. Cette arme, je ne la sens pas pour le moment. »«
Tu t'y feras vite, mon gars !»
assura Lila. Arborant une épée et un couteau dénichés à Renda sur Bay, elle semblait prête à déchiqueter du Norukai avec les dents.
« Reste près de moi et on fera un massacre. »
Nathan ne s'étonna pas que Solide manque tant à son propriétaire. Sans payer de mine, comme Bannon lui-même, elle cachait en réalité une puissance dévastatrice. Nathan baissa les yeux sur l'épée qu'il portait à la hanche. Une lame d'apparat, peut-être, et pourtant plus dangereuse que la plupart des autres. Avec sa tenue, elle composait l'image flamboyante d'un aventurier. Mais depuis le retour de son don, le vieil homme avait compris qu'il était avant tout un sorcier. Sa vraie identité, c'était ça. S'il le fallait, ferrailler ne le dérangeait pas. Mais pour ce faire, il n'avait pas besoin d'une arme de luxe. Bannon, en revanche. Nathan défit son ceinturon d'armes.
« Fiston, tu mérites ce cadeau. »
Bannon roula de gros yeux.
« Que veux-tu dire ?»«
Prends mon épée. Vu le prix que je l'ai payé, ça doit être la meilleure du monde. Lors de mes aventures, elle m'a bien servi, comme tu le sais. Mais tu en auras plus besoin que moi. Prends-la, c'est un cadeau. »
Bannon hésita un peu.
« Je n'ai jamais manié une telle lame.
Le tranchant pour la taille et la pointe pour les stocks, » fit Lila. « Rien de bien compliqué. »
« Allons !» insista Nathan. « Prends-la avant que je change d'avis. »
Bannon accepta le précieux cadeau.
« Merci, Nathan. »
Émerveillé, le jeune escrimeur dégaina la lame. Quand il l'exposa au soleil, des larmes brillèrent à ses paupières.
« S'il la voit, Calvert s'enfuira peut-être en criant de peur. »«
J'aimerais mieux qu'il approche, » dit Lila, « pour que tu la lui plantes dans le cœur. »
« Donne-moi ton arme en échange, mon garçon, » dit Nathan, tout content. « Je ne peux pas sortir tout nu. »
Bannon obéit, puis boucla autour de sa taille le ceinturon du vieil homme.
« C'est une arme digne de ton talent, »
approuva Lila.
« Soline me manquera quand même.
N'oublie pas que l'épée n'est qu'un outil, mon gars. La véritable arme, c'est toi. »
Les Norukai gagnaient toujours de la vitesse et ils ne tarderaient pas à avoir rattrapé le voilier. De sa position, Nathan entendait déjà le tambour du maître des rameurs et les cris des guerriers. Une des galères avait pris de l'avant sur les autres, ses rames se déplaçant à la vitesse des membres d'un mille-pattes. Debout derrière la figure de proue, un Norukai rugissait en brandissant un fléau d'armes.
« Il s'appelle Bosco, » dit Bannon. « Ce chien nous a forcés à ramer jusqu'à l'épuisement. »«
Il est un but lui-même, » ajouta Lila. « Moi, je sens ces flatuosités d'ici. »
Bannon eut un sourire mauvais.
« Cette ordure pue assez fort pour tuer un adversaire. »
La galère de Bosco fondait sur le voilier comme si le pillard nourrissait une querelle personnelle contre ses occupants. Ambre, Oliver et Peretta se consultèrent, puis la novice se fit leur porte-parole.
« Nous pouvons faire quelque chose. Regardez bien. »
Épaule contre épaule, Oliver et Peretta se tinrent face à la galère. Unissant leurs dons, ils générèrent une vague d'eau et d'air qui percuta latéralement la proue du bateau de Bosco. Sur le pont, tous les norocailles durent s'accrocher où ils pouvaient pour ne pas être précipités par-dessus bord. Dans la cale, des rames échappèrent aux costauds qui les maniaient. Marins expérimentés, les norocailles se massèrent du côté surélevé de la galère, histoire qu'elles se remettent d'aplomb. Aussitôt, les rames s'abattirent dans l'eau, mais le bateau n'avançait plus droit.
« On a réussi !»
se réjouit Ambre.
« On les a arrêtés !»«
En avant toutes !»
cria Mills.
« On peut les semer !»
Se redressant péniblement, Bosco s'accrocha d'un bras à la figure de proue et agonie d'injures ses adversaires. Debout près de Nathan, Auron eut un rictus.
« L'abordage n'est pas pour tout de suite, mais nous pouvons frapper d'ici. »
Il leva une main, paume ouverte. Nathan eut un petit sourire.
« Les genoux ont fait du bon boulot, mais nous, on peut en finir une bonne fois pour toutes. »
Ensemble, les sorciers lancèrent deux éclairs qui percutèrent la proue de la galère, désintégrant la tête de serpent en même temps que l'horrible Bosco.
« Il a explosé !»
lâcha Bannon.
« C'est le risque quand on est plein de gaz !»
Lila ricana. Les autres galères ne renonçaient pas aux grandes dames du capitaine Mills.
« Heureusement que les bateaux de pêche ont beaucoup d'avance. L'ennui, c'est que ces norocailles vont nous coller au train pendant des jours. »
Derrière les voiliers, le ciel de Renda-sur-Bay était noir de fumée. Les réfugiés le fixaient, conscients que leur foyer n'était plus que des cendres. Devant le port, le gros de l'armada ennemie mouillait déjà.
« Nous devons garder notre avance et prévenir les villes côtières, » dit Nathan. « S'ils comprennent qu'ils ne nous rattraperont pas, les norocailles finiront par faire demi-tour. »
« Je peux aider aussi, »
dit Dame Olga,
« avec une astuce que j'ai apprise à Ile-Dakar et utilisée à surplomb du monde. »
Avec son don, la magicienne fit monter de l'océan une infinité de gouttelettes qu'elle transforma en une énorme nappe de brouillard. Derrière ce rideau, bien malin, le capitaine ennemi qui distinguerait encore les trois voiliers. Nathan apprécia ce camouflage à sa juste valeur. En transe, Olga continua à alimenter la brume jusqu'à ce qu'elle enveloppe totalement les galères.
« Parfait! On va pouvoir continuer sans qu'il nous dérange !»
Avec une belle avance sur la nappe de brouillard, les trois voiliers continuèrent à caboter en direction de la prochaine ville côtière.